Tracé Ensemble vous propose une méditation d'Anne Pommet sur la transfiguration, qui se trouve dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 17, les versets 1 à 9, et dont Claire et Philippe en feront la lecture.
Évangile selon Matthieu 17, 1, versets 1 à 9. 6 jours plus tard, Jésus prend avec lui Pierre, Jacques et Jean, son frère, et les emmène à l'écart sur une haute montagne. Il fut transfiguré devant eux. Son visage resplendit comme le soleil. Ses vêtements devinrent blancs comme la lumière. Et voici que leur apparurent Moïse et Élie, qui s'entretenaient avec lui. Intervenant, Pierre dit à Jésus :
Seigneur, il est bon que nous soyons ici. Si tu le veux, je vais dresser ici 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse, une pour Élie. »
Comme il parlait encore, voici qu'une nuée lumineuse les recouvrit. Et voici que de la nuée, une voix disait :
Celui-ci est mon fils bien-aimé, celui qu'il m'a plu de choisir, écoutez-le. »
En entendant cela, les disciples tombèrent la face contre terre, saisis d'une grande crainte. Jésus s'approcha, il les toucha et dit :
Relevez-vous, soyez sans crainte.
Levant les yeux, ils ne virent plus que Jésus, lui seul. Comme ils descendaient de la montagne, Jésus leur donna cet ordre :
Ne dites mot à personne de ce qui s'est fait voir de vous, jusqu'à ce que le Fils de l'homme soit ressuscité des morts.
On connaît bien ce texte, mais il n'est pas toujours précisé. Le contexte d'écriture n'est pas toujours précisé. Or, c'est important pour comprendre plusieurs détails de ce récit. Donc, le contexte nous est donné par la première mention « après 6 jours ». Au tout début, après 6 jours. Matthieu fait écho à Exode 24, 16. La gloire de Yahvé s'établit sur le mont Sinaï et la nuée le couvrit pendant 6 jours. Le 7e jour, Yahvé appela Moïse du milieu de la nuée. Donc là, les auditeurs juifs de la communauté de Matthieu savent déjà que ce qu'ils vont entendre dans le récit de la Transfiguration, c'est une théophanie qui rappelle que Yahvé s'est montré à Moïse. Alors les 6 jours, ça évoque aussi la semaine de la fête des tentes. La fête des tentes, c'est Soukhot. Les fêtes juives, il y a plusieurs fêtes juives dans l'année, donc c'est un. Il y en a 3 très importantes et la plus joyeuse avec Hanouka, la fête des lumières, c'est la fête des tentes ou la fête des cabanes en automne. Les enfants adorent cette fête-là parce que ils sont heureux de dormir dans des cabanes qu'ils ont fabriquées. Et ces cabanes-là, ça rappelle le nomadisme, toute cette période de marche au désert. C'est ça qui est évoqué dans la fête des tentes. Alors les Juifs montaient à Jérusalem pour ce qu'ils pouvaient, pour fêter ensemble dans la joie la fête des tentes. Donc ça explique après pourquoi Pierre veut aussi faire des cabanes pour Jésus, Moïse et Élie. Donc à Jérusalem, il y a foule au moment des grandes fêtes. Et précisément à ce moment-là, on discutait beaucoup, les gens venus, les pèlerins venus à Jérusalem discutaient de savoir si le Messie allait se manifester enfin. C'est à ce moment-là même que Jésus pose la question à ses disciples pour savoir ce qui se dit à son sujet et comment eux, les disciples, ils se situent par rapport à leur maître. Vous, qui dites-vous que je suis ? Pierre ose faire une belle confession de foi, mais aussitôt Jésus évoque sa prochaine arrestation et sa mise à mort. Pierre proteste : « Dieu t'en préserve, Seigneur. mais il est vivement remis à sa place. Arrière, derrière moi, Satan, tes vues ne sont pas celles de Dieu, mais celles des hommes. Et l'avertissement solennel suit, si quelqu'un veut venir à ma suite, qu'il se renie lui-même, prenne sa croix et me suive. Voilà où on en est, juste avant le récit de la transfiguration. Ça vous donne l'ambiance. Là, ça veut dire qu'on arrive à un moment crucial du ministère de Jésus. Il se rend compte qu'il y a une forte hostilité contre lui et que ça va mal se terminer. Alors, le récit lui-même de la transfiguration. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu quelqu'un évoquer son expérience spirituelle, des expériences mystiques, ce qui se passe entre Dieu et l'être humain, c'est quelque chose qui est très difficile à raconter avec nos mots humains. C'est très intime, c'est pour ça qu'on a du mal à en parler. Donc là, on suppose qu'il y a eu une vision, un fait réel qui s'est produit, mais qui a été complètement retravaillé, reconstruit, mis en forme par l'évangéliste. Inutile, par exemple, de chercher une précision géographique concernant la montagne. Des montagnes dans la Bible, il y en a plein. Il y a la Sinaï, il y a l'Horeb, il y a le Tabor, et puis finalement, il y a le Golgotha. La montagne, ça a uniquement un sens symbolique. La montagne, c'est le sommet, c'est ce qui est le plus près du ciel. Donc, en fait, c'est le lieu où Dieu se manifeste. C'est le lieu de la rencontre de Dieu et de l'homme. Voilà, c'est ça que ça veut dire. Alors, je reviens sur la théophanie. La théophanie, c'est d'abord une vision lumineuse. Quand on pense transfiguration, on imagine un Jésus complètement, dans une aura de lumière. Voilà ce qu'on imagine. Donc l'apparence de Jésus est complètement métamorphosée par la lumière. C'est pas tellement original. Dans toutes les religions, la lumière, l'immense lumière, particulièrement vive, intense, c'est l'attribut de la divinité. En revanche, Jésus dira « Je suis la lumière du monde ». Il y aura tout, et Jean dans son prologue dira « la lumière s'est manifestée au milieu des ténèbres », etc. Mais la vision à elle seule ne dit pas tout. Il y a une parole. Il y a une parole qui accompagne cette lumière, et il y a quand même autre chose, je reviens un petit peu en arrière. On voit Jésus, les trois qui sont invités à être les témoins. Vous savez que chez les juifs, pour qu'un témoignage soit valable, il faut trois témoins. D'où le fait que Jésus emmène avec lui Pierre, Jacques et Jean. Jésus est vu en conversation avec Moïse et Élie. On se demande bien ce qu'ils ont pu se dire, ce qu'ils pouvaient bien se dire. Mais là n'est pas le sujet de l'évangéliste, le sujet c'est de dire « Il y a des gens actuellement dans Jérusalem qui pensent que ce prophète exceptionnel est Élie ressuscité ou Moïse, le nouveau Moïse. » Et le fait que Jésus soit montré en conversation avec les deux prophètes, Moïse et Élie, signifie aussi que Jésus est plus que, et autre que, déjà, et autre que, et qu'il est plus qu'un prophète. Donc je reviens au fait que la vision à elle seule ne dit pas tout. Elle s'accompagne d'un message, qu'on a déjà entendu quelque part dans l'Évangile. Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis tout mon amour. Quand est-ce qu'on a entendu déjà cette phrase-là ? Le baptême de Jésus au Jourdain. Celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis tout mon amour. Et là, il y a un tout petit mot en plus qui est destiné aux disciples. Écoutez-le. Écoutez-le. Celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis tout mon amour. Écoutez-le. Écoutez-le, ça fait écho au premier commandement. Shema Israël, écoute Israël. Ça veut dire ouvre tes oreilles, ouvre ton cœur. Attention, voilà un message très important. Donc Pierre peut comprendre que son intuition de l'identité divine de Jésus, c'est toi le Christ, celui qu'on attend. Hein? Cette intuition-là, elle est juste. Mais son idée du Messie rêvé, qui va venir dans la toute-puissance, ne correspond pas du tout au choix de son maître. Jésus est conscient qu'il marche vers la mort du fait de la radicalité de son message, mais il persiste dans son renoncement à l'usage des armes et de la toute-puissance. Donc on peut interpréter le « écoutez-le » dans le sens « ne tentez pas votre maître, cessez de croire dans la toute-puissance, suivez Jésus dans son choix de renoncement à soi-même. » Donc je crois que de ce texte, le message essentiel, c'est que Jésus reçoit une seconde fois sa divinité des mains du Père. Et il reçoit une réassurance de l'amour du Père pour lui, au moment où il prend la mesure de ce qui va lui arriver. Sa mission est un échec. Son ministère prend une tournure absolument dramatique. Eh bien, c'est à ce moment-là que le Père fait éclater, donne un petit échantillon de la gloire qu'il réserve à son Fils, qu'il va lui réserver dans la résurrection. Et c'est cette force-là, le fait de se voir réassuré dans son amour, c'est grâce à cela que Jésus va pouvoir poursuivre son engagement jusqu'au bout. Alors, une avant-dernière remarque, c'est ce qui peut nous parler dans cet aspect tout à fait humain de Jésus qui a besoin d'être réassuré que le Père l'aime vraiment et va l'accompagner jusqu'au bout. Jésus a sans doute éprouvé des doutes sur lui-même. De même, il a dû s'interroger sur ses raisons de persévérer. Est-ce que j'ai raison? Est-ce qu'il ne faut pas lâcher? Comme nous pouvons douter de nous-mêmes certains jours. Certains jours, on se dit, est-ce que j'ai raison de croire? Est-ce que j'ai raison de faire confiance à telle personne? Est-ce que je ne me suis pas trompée? Est-ce que j'ai raison de pardonner? On n'a pas grand-chose pour faire confiance aux autres. Parfois, on se dit, à quoi bon? À quoi bon continuer? Quand on a subi des échecs, même des petits échecs, hein, sur le plan professionnel ou autre, à quoi bon s'accrocher, à quoi bon? Parfois, on peut se demander si on n'est pas en train de se raconter des histoires, parce que le monde est cruel, il n'y a rien à attendre des autres. À quoi bon? Eh bien, rassurons-nous. Notre maître n'a pas cheminé dans la parfaite clarté. L'intranquillité a habité Jésus en même temps que la confiance. On peut être inquiet et en même temps faire confiance. Donc l'intranquillité a habité Jésus en même temps que sa confiance renouvelée. Son abandon, jour après jour, entre les mains du Père. Aussi, je vous invite à nous laisser nous encourager par Jésus lui-même. Amen.